m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans VMDN, délocalisé comme hier à l'Institut français du Mali à l'occasion des rencontres littéraires du Mali qui se déroulent jusqu'à samedi dans la capitale Bamako mais aussi à Sikasso, Djéné et Tombouctou. Quand l'Afrique se raconte à elle-même et au monde, c'est le slogan de cette manifestation dont l'édition 2019 est intitulée Un monde de la rencontre. Alors en quoi le livre est-il, peut-il, doit-il être une rencontre? C'est la question que nous avons posée à quelques-unes des personnalités présentes ce mardi soir lors de l'inauguration officielle au Musée National.
Moi, c'est Mohamed Amara. Mon meilleure rencontre avec un livre, c'était Marc Bloch, L'étrange défaite. Parce que je l'ai lu au moment où le Mali était dans une situation de détresse. Et Marc Bloch, cet historien, l'a montré comment la France a perdu la guerre et qu'est-ce qu'il fallait faire. Et c'était la même situation pour le Mali en 2012.
Shahana Takiyou, je suis journaliste. Ma mère rencontre avec un livre, c'est André Malraux, La condition humaine. Un livre qui m'a beaucoup marqué parce que ça parle d'une situation, ça parle d'une société, et ça parle de la condition humaine.
Je m'appelle Ambibé Ourogem, je suis le plus jeune des enfants de Père Sonam Yambo Ourogem. Bon, c'est le livre, c'est celui de mon papa, évidemment, Les devoirs de violence. Donc, car ce livre retrace à l'histoire africaine. Il a essayé quand même de faire comprendre qu'en parlant d'Afrique, en parlant de colonisation, ce n'est pas la faute seulement de l'Occident ou des colons que, voilà. Et c'est la faute aussi des notables, car c'est eux qui ont commencé le phénomène et à partir de là, le phénomène s'est proposé.
Mon nom, c'est Traoré Moussa. Ma plus belle rencontre avec les livres, c'est certainement L'étrange destin de Wangré, dont le contenu m'avait été suffisamment expliqué par mon maître pour que je saisisse le message qui se cachait derrière les lignes du livre.
Moi, je m'appelle Ngom Kadi. Moi, je dirais que c'est le livre de Kéba Mbaye, Parcours et combat d'un grand juge. Parce que pour moi, ce livre, c'est comme la Bible pour un magistrat.
Moi, c'est Madame Diara Sanogo. Moi, ma plus belle rencontre avec un livre de théâtre, La grève des Batous, de Aminata Sofal du Sénégal. Parce que moi-même, je suis comédienne.
Je suis Hamidou Ngoïba. Il y a toute la collection de Guy Descartes.
Non, je m'appelle Gauze, je suis écrivain, artiste multidimensionnel et iconoclaste. J'étais à la bibliothèque du lycée classique d'Abidjan. Il y avait un bouquin qui traînait, c'était Le voyage au bout de la nuit. Ça m'a happé tout de suite, je l'ai fini en 2 jours. Et puis il y a quelqu'un qui m'a jeté la soleil des indépendances quand j'ai commencé à m'extasier sur ces lignes. Un pote qui m'a dit oh, tiens, lis ça et calme-toi. Donc c'était la double claque dans la même semaine. Après, je me suis dit quand je serai grand, je vais y écrire comme ça.
VMDN est au Mali, à Bamako.
Avec nous en plateau pour cette deuxième émission, Monique Ilboudo, romancière burkinabé, ancienne secrétaire d'État pour la promotion des droits humains, ambassadrice plénipotentiaire honoraire du Burkina Faso dans les pays nordiques et baltes et militante de toujours des droits de l'homme et des droits des femmes aussi. On connaît bien votre combat contre les mutilations génitales féminines, contre le viol, contre le sida, combat aussi pour la protection de l'enfance. Merci beaucoup d'être avec nous et bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Vous avez aussi écrit sur les migrations avec Si loin de ma vie, sur le métissage, les préjugés avec le mal de peau, sur l'homosexualité également et sur le poids du génocide rwandais. On en dira peut-être un petit mot tout à l'heure avec Mouré Katété après une résidence d'écriture que vous avez menée au Rwanda. À vos côtés, l'écrivain béninois Florent Kouaouzoti, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié des romans. Votre petit dernier s'appelle Western Choukoutou, mais il y a aussi par exemple La rencontre de la musaraigne. Vous publiez aussi des nouvelles, du théâtre, de la bande dessinée. Vous avez même tâté, je crois, des séries télévisées et des films vidéo. Dans les années 90, vous avez été journaliste. Quel beau métier, hein, en l'occurrence dans la presse satirique béninoise. Et on ne compte plus les prix que vous avez reçus. Un prix de Chikaya Outamsi, prix de la francophonie, de la littérature de jeunesse, prix de l'excellence du Bénin, prix Amadou Kourouma, et j'en passe. Et puis, également avec nous, l'anthropologue français Jean-Loup Ancel. Bonjour.
Bonjour.
Directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, ancien rédacteur en chef des cahiers d'études africaines. Donc un africaniste spécialiste notamment du Mali, vous avez beaucoup travaillé sur les questions de métissage, d'ethnicité, d'islam, de multiculturalisme et vous avez en particulier publié en août dernier un livre d'entretien baptisé Enquête d'Afrique, Afrique étant écrit au pluriel avec le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne. Alors justement Jean-Loup Ancel, dans quelle mesure la littérature africaine contemporaine vous semble-t-elle le reflet d'une Afrique plurielle?
Je crois qu'effectivement il y a une mutation dans la littérature africaine.
africaine contemporaine, avec toute une série de nouveaux auteurs qui sont engagés directement dans la littérature monde. Je pense à des gens comme le Congolais américain, on ne sait plus s'il est Congolais ou américain, Alain Mabankou, le Camerounais Patrice Nganang, qui est, on ne sait pas non plus s'il est Camerounais ou américain. Il y a toute une série de penseurs au-delà des écrivains, enfin des essayistes comme Achim Mbembe, comme Souleymane Bachir Diagne que vous avez évoqué, avec qui j'écris un livre récemment, ou bien des gens comme Félou Insar. Enfin, on sent qu'il y a une effervescence actuellement autour de la littérature et de la pensée africaine, notamment dans les ateliers de la pensée qui ont eu lieu à Dakar l'année dernière, qui ont lieu cette année avec la mise en place d'une école doctorale de la pensée africaine. Enfin bon, et je pense qu'il y a vraiment une effervescence actuellement qui est réjouissante.
Alors vous utilisez donc le mot Afrique au pluriel dans le titre de votre livre.
Entre parenthèses.
Voilà, justement. Alors oui, voilà, parce que effectivement vous défendez deux visions, pas forcément opposées systématiquement, mais en tout cas différentes. Mais on va rapporter ce pluriel ou ce singulier à la littérature. Est-ce qu'il faut parler de littérature africaine au singulier, ou est-ce qu'il faut parler des littératures africaines au pluriel, Jean-Louis?
Je pense que d'abord il faut parler de littérature africaine au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs et que les auteurs sont divers, sont différents pays.
Parce qu'on ne parle pas de littérature européenne ou de littérature asiatique, ça viendrait à aider personne.
Il faut d'abord parler de littérature de chaque pays, enfin dans la mesure où les auteurs se réfèrent à leur pays d'origine ou pas d'ailleurs. Mais surtout, moi je pense qu'il faut pas faire de différence entre la littérature francophone et la littérature française. Pour moi, les gens qui écrivent en français font partie de la littérature française. Ils sont pas des littéraires francophones qui seraient une espèce de périphérie de la littérature française. Je pense qu'il faut participer pleinement de la littérature française dans sa diversité, qu'il soit québécois, qu'il soit béninois, qu'il soit burkinabé.
C'est-à-dire que l'expression littérature francophone correspondrait à une sorte de vision un peu ghettoisante.
Oui, je pense. Ou alors, il faut englober les auteurs français comme Éric Huillard, Michel Houellebecq ou autres dans la littérature francophone.
Et vous êtes d'accord, Monique Ilboudeau? Vous êtes une écrivaine francophone ou française?
Non, française, certainement pas. Francophone, oui. Moi, je pense tout à fait le contraire, que c'est la littérature française qui doit être intégrée dans la littérature francophone si elle existe. Hein? Si cette entité existe, c'est la française qui est, parce que la France est aussi un pays francophone, donc ça serait dans ce sens. Mm-hmm. Mais sinon, je ne me sens vraiment pas auteur française, je ne suis pas française. Mm-hmm. Voilà. Donc, mais c'est vrai que, bon, vous savez, tous ces débats-là, parfois, bon, moi je trouve ça un peu spécieux, parce que moi je suis dans mon contexte, j'essaye d'écrire. Bon, on me demande parfois, tu écris pour qui? Moi, je n'écris pas pour quelqu'un. D'abord, c'est pour moi-même que j'écris. Et puis ensuite, une fois que j'ai publié, comment je peux dire que je m'adresse à tel ou tel, puisque je ne peux pas maîtriser qui va lire mon livre, hein? Quand vous avez publié, c'est comme une bouteille que vous avez jetée à la mer. N'importe qui peut la ramasser et lire son contenu. Je me souviens de ce débat il y a quelques années, parce que des Africains ont eu maintenant des prix prestigieux à Paris. On a commencé à parler donc de littérature monde, parce que bon, maintenant la littérature française reconnaît ce qui semblait être ses périphéries ou sa périphérie. Bon, ce débat-là, à l'époque déjà, bon, mon idée était que je ne pense pas que ce soit le cas jusqu'à présent. Parce que les auteurs africains qui émergent sont lesquels? C'est justement ceux qui arrivent à approcher le centre, à publier à Paris ou à Londres ou ailleurs. Voilà. Moi, je pense qu'on pourrait vraiment parler de décentralisation ou de déconcentration quand moi je peux publier à Ouagadougou et être lu à Paris, à Londres, n'importe où. C'est là que je me sentirai le plus à l'aise et ne pas être obligé d'aller publier à Paris si je veux être lu au niveau international.
Laurent Cozotti.
Je suis parfaitement d'accord avec Monique, en ce sens que lorsque nous on se trouve en Afrique, on est dans un monde tellement comment dirais-je, spécifique, on ne pense pas forcément faire la différence entre francophones, français, etc., etc.
On se pose trop de questions, en fait.
On ne se pose pas de questions parce que les questions ne viennent pas à notre esprit. On a besoin de publier, on a besoin de produire un test littéraire, et on le publie dans une maison d'édition qui est capable de relayer notre discours. Parlons de littérature africaine en elle-même.
Moi, je dirais qu'il ne faudrait pas mettre S à la littérature africaine. Certes, à l'intérieur de la littérature africaine, il y a plusieurs langues dans lesquelles cette littérature s'exprime, à partir d'abord des langues nationales. Il y en a autant que il y a autant de langues que de littérature africaine. Ensuite, il y a les langues d'emprunt. Enfin, elles ne sont plus des langues d'emprunt à partir du moment où certains pays l'ont intégré comme étant des langues nationales. Le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais. Et donc, à partir de ce moment-là, ces littératures parlent de la même chose, parlent des mêmes réalités. Les langues sont plurielles, mais elles cernent les mêmes espaces sociologiques et les mêmes thématiques d'une façon générale. Bon, maintenant, lorsque, comme le dit Monique, certains auteurs arrivent à publier dans l'espace qui semble être disons l'espace dans lequel on se révèle au monde, c'est-à-dire en France pour la plupart du temps, à Londres pour les littératures qui sont produites en langue anglaise, eh bien on a vraiment l'impression que on parle à tout le monde et que tous les francophones, tous les anglophones peuvent nous écouter. À partir de ce moment-là, eh bien on peut dire que on approche le monde. Quelqu'un parlait de littérature monde. Je m'inscris pas forcément dans cette tendance-là, mais disons que le discours que l'on porte, à partir du moment où il est compris, il est relayé à travers des instances éditoriales qui puissent articuler notre discours, eh bien, je pense que l'essentiel est atteint. Nous, on ne cherche que du public. On cherche un public vers lequel adresser notre parole. Eh bien, à partir du moment où cet objectif est atteint, on ne peut que être satisfait.
Vous m'en direz des nouvelles et Tomali à Bamako.
Simbo, et vous aurez reconnu la voix du regretté Kassemadi Diabaté dans VMDN sur RFI avec nos invités réunis à l'Institut français ici à Bamako. Les Diabaté, l'une des plus anciennes lignées de griots malinqués, les griots dont la tradition orale, je parle sous votre contrôle, Jean-Loup Ancel, remonte au XIIIe siècle. Cette tradition de l'oralité, elle est toujours aussi vivace aujourd'hui?
Elle est toujours aussi vivace. Enfin, les griots sont toujours... occupent toujours une place éminente et même, je dirais même qu'ils se sont internationalisés. Enfin, ils se produisent dans le monde entier, ils se produisent avec des musiciens occidentaux, ils mixent la kora avec d'autres instruments, ils ont maintenant une aura internationale. Donc c'est vraiment une reconnaissance mondiale de la musique mandingue, spécialement des griots, les kouyatés, les diabatés, etc. La musique des griots, c'est une musique de cour qui est interprétée avec certains instruments comme la kora, qui sont des instruments, disons, nobles, entre guillemets.
Mais alors cette mondialisation culturelle, en l'occurrence musicale, que, que vous décrivez, Jean-Louis Ancel, est-ce que c'est aussi le signe qu'aujourd'hui, eh bien, la littérature, la culture d'une façon générale, se mondialise ? Est-ce qu'on peut parler d'une forme de nouveau métissage ?
Alors, il y a un métissage, c'est certain. C'est un métissage, d'une part, qui a toujours existé, parce que les cultures africaines ont toujours été mélangées, de même que les cultures européennes, d'ailleurs. Hein. L'entrée de l'Afrique dans le monde ne s'est pas faite en 2019, avec la globalisation, mais là, même, disons, ce qu'on appelle, nous, le Moyen-Âge, mais qui ne correspond pas à la périodisation pour l'Afrique de l'Ouest, déjà, l'Empire du Mali faisait partie prenante de la mondialisation. Le souverain Kankou Moussa a fait le pèlerinage à la Mecque, en 1324, il a porté avec lui 6 tonnes d'or, il a fait baisser le cours de l'or pendant plusieurs années au Caire. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. Il y avait exportation d'or, d'esclaves, etc., importation de produits manufacturés, de livres, etc., de selgem. Donc
une Afrique culturellement refermée sur elle-même, c'est une vue de l'esprit totale qui ne repose strictement sur rien.
Oui, c'est une vue de l'esprit. D'ailleurs, la notion de société traditionnelle en elle-même n'a pas de sens, parce que les sociétés africaines, quelles qu'elles soient, d'ailleurs pas seulement au Mali, n'ont cessé de se transformer. Alors, une des grandes transformations, ça a été l'islamisation, qui s'est produite au sud du Sahara à partir du Xe siècle, qui a commencé par les cours, justement des cours des souverains, et qui petit à petit s'est répandue dans les campagnes, dans les villages, etc. Donc ça a été une source majeure de transformation, avec formation d'une culture originale. Et ensuite, évidemment, sous la colonisation, l'islam s'est ensuite développé en liaison avec l'imposition du français. Mais il faut voir aussi que l'islamisation s'est beaucoup développée au Sénégal, au Mali, etc., avec la colonisation. De sorte que l'idée d'un continent africain fermé est une vue de l'esprit.
Et cette popularisation des traditions, ce maillage que vous nous décrivez, Jean-Louis Ancel, c'est la tradition orale qui l'a portée, qui continue encore aujourd'hui de la porter.
Oui, alors il y a une vivacité de cette tradition orale, de cette musique qui l'accompagne, alors avec des transformations, parce qu'effectivement, si vous voulez, comme tout document oral, si on peut parler comme tel, il est sujet aux transformations de l'histoire, hein, il s'adapte, etc. Mais il n'empêche que la forme même, enfin les griots existent toujours, la façon de chanter la gloire des ancêtres des clans ou des lignages dominants, ça existe toujours. Donc il y a une perpétuation, mais en même temps un mixage de ces traditions avec des musiques autres. Moi, j'ai travaillé à la Fondation Royaumont il y a quelques années. On mixait, enfin, ils mixaient pas moi, mais ils mixaient la musique malienne avec la musique iranienne, avec d'autres types de musique. Et ils trouvaient des correspondances entre les musiques. Et ils créaient d'ailleurs une musique qui était tout à fait originale, qui était la musique Royaumont.
Alors, justement, est-ce qu'on peut transposer ça à l'univers de la littérature, hein, Monique Ilboudon? Est-ce que la littérature africaine ou les littératures africaines, on va pas forcément se mettre d'accord s'il faut employer le pluriel ou le singulier, mais peu importe, on a bien compris ce que vous disiez tout à l'heure, sont des littératures métissée à la base, on va dire. Est-ce que c'est consubstantiel à l'écriture en Afrique que d'être une écriture métissée?
En Afrique et ailleurs, je pense. Hein, je crois que l'humanité, il y a toujours eu des échanges et tout. Mais le combat qui a été mené, qui doit encore être mené aujourd'hui encore, c'est qu'on considère les cultures africaines, les littératures africaines, la musique africaine, les Africains au même niveau que les autres humains. Ça progresse, mais ce n'est pas gagné. Hein? Parce que même quand, je suis tout à fait d'accord que il y a toujours eu des échanges, mais si vous parlez par exemple d'échanges en parlant d'esclavage ou de choses, c'est pas pareil qu'aujourd'hui. Les échanges qu'il peut y avoir entre Européens et Africains. Voilà, donc je pense que c'est sur ce terrain-là plutôt qu'il faut voir l'évolution des choses. Est-ce qu'on y est ou on n'y est pas? Et on n'y est pas encore tout à fait, à mon avis. Mais sinon, le monde, qu'il soit africain, européen, asiatique, n'a jamais été totalement étanche. Hein? On découvre que les Africains ont été en Asie à une époque où on ne pensait même pas qu'ils bougeaient de chez eux aujourd'hui. Voyez. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours eu des échanges, mais est-ce ou était-ce des échanges équilibrés? C'est ça, je crois, la grande question.
Florent Clozotti, est-ce que cette tradition orale qui se perpétue aujourd'hui, hein, comme le disait Jean-Louis Ancel à l'instant, est-ce que paradoxalement aujourd'hui, la défendre passe aussi par l'écrit, par l'écriture?
Je pense que la position de l'écriture a souvent intégré l'aspect oral des traditions. Il suffit tout simplement de se référer un peu à celui que je considère comme étant quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, Amadou Koroma, dans ses premiers textes, et même vers la fin de sa production littéraire, eh bien, il a toujours dit que la seule façon pour lui de rendre compte des réalités de son pays, de son environnement, c'est de malinquiser le français, c'est-à-dire de donner de la force à l'oralité dans ces tests-là. Et je pense qu'il a admirablement réussi à le faire en essayant de donner la parole non seulement aux griots dans ces tests, mais également de faire en sorte que la tradition africaine orale résonne fortement dans ces tests.
Oui, c'est un moyen d'ancrer un récit dans la réalité.
Dans la réalité, et surtout de donner à entendre justement la manière de parler des Malinkés. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, puisque lui aussi s'est inspiré d'un autre maître de la parole, qui est Amadou Mpateba. Et donc, toute la littérature africaine aussi a été, disons, une héritière de la tradition orale. Quand, par exemple, dans mon pays, on parle d'un écrivain comme Paul Razoumet, il a influencé énormément de personnes, parce que d'abord c'était un anthropologue qui a recueilli énormément de textes oraux des Paningans. Alors quand on dit Paningans, c'est les griots de l'ancien royaume du Dahomey. C'est des historiens, oui, des historiens de la cour, et donc qu'il a recueilli et qu'il a essayé de traduire en essayant d'intégrer un peu l'imaginaire populaire de cette communauté-là, la communauté du temps romain, et qui a donné un très beau livre, Dogissimi. Et moi, je pense que on doit même plus se poser la question de savoir si l'oralité joue un rôle très important. L'oralité est intégrée justement dans la culture littéraire de tous les écrivains. Moi-même, j'essaie de le faire en essayant de donner beaucoup plus d'amplitude aux proverbes, par exemple.
Oui, alors justement, par exemple, là, dans Western Chukutu, qui est votre dernier roman, il y a plein de néologismes, de liberté avec la langue française, et vous avez finalement votre propre langue que vous façonnez paragraphe, Florent Cosotti, donnez-nous un petit peu la recette de votre cuisine. Comment est-ce que l'on accommode comme ça une littérature en français à la sauce béninoise, cette saveur si singulière?
Mais je ne sais pas comment je pourrais décrire ça, mais toujours est-il que...
Mais c'est naturel chez vous, ou bien il y a vraiment un effort de façonnage, un travail d'orfèvre finalement autour des mots qui puissent...
Non, c'est pas naturel. Je passe le temps à savoir ce qui peut être proche un peu de la manière de parler de certaines populations. C'est par exemple dans les quartiers populaires. Vous savez que le français dans certaines communautés... a une vitalité incroyable que les gens créent tous les jours par rapport, disons, à leur environnement, par rapport à la misère qu'ils vivent et par rapport aux efforts qu'ils font pour se sortir de cette misère-là et par rapport aux anglicismes, parce que on est dans une société où l'anglais a, disons, un rôle très important dans la construction linguistique. Et donc, il faut malaxer tout ça là pour sortir quelque chose qui puisse être proche de la réalité, mais qui également détermine la spécificité de l'écrivain que je suis. Parce que il faut venir à la littérature avec une certaine particularité.
Alors ça, c'est passionnant, Jean-Louis Ancel, parce qu'effectivement, il y a ce métissage de la langue qui travaille vraiment en permanence. Par exemple, je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer là-dessus, il y a le camfranglais, donc ça se passe au Cameroun, donc il est à la fois un mélange de langue locale camerounaise, de français et d'anglais. Il y a une sorte d'invention de langue monde, bien sûr, monde et local en même temps, oui, c'est alors, très étonnant.
On pleure sur la disparition des langues, effectivement, il y a un certain nombre de langues qui disparaissent.
Hein. Et en même temps, il y en a beaucoup mais qui trouvent une nouvelle vie.
Il y en a qui se créent aussi, comme le Nouchi d'Abidjan, par exemple, qui est une espèce d'argot parlé par les jeunes Abidjan. Mais je dirais que c'est pas propre à l'Afrique, c'est aussi propre à la France, parce que en France aussi, par exemple, la langue française, on défend la langue française, mais c'est absurde, parce que la langue française contient des dizaines ou même des centaines de termes d'arabe. Les jeunes des banlieues disent pas seulement les noirs ou les arabes, mais ils disent Baptou, par exemple, hein, pour les blancs. Donc, en fait, moi, je pense, si vous voulez, c'est ce que je dis dans le livre avec Souleymane Bachir Diagne, en fait, les langues n'existent pas comme entité fermée, éternelle. si vous voulez, intact, qui serait, qui existerait dans, dans une sorte de pureté intemporelle. En fait, chaque individu crée sa propre langue, hein, c'est, mais à condition, bien sûr, que sa langue, la langue qu'il crée, qu'il s'approprie à partir de, d'un ensemble très large, qui est maintenant mondial, hein, et il s'approprie ce signifiant global qu'il transforme en signifié particulariste, et donc il crée sa propre langue, et la condition, évidemment, sine qua non, c'est qu'il soit compris par les autres. Parce que s'il n'est pas compris par les autres, il parle un idiolecte et à ce moment-là, il est fou.
Voilà. Mais alors, vous-même, Monique Ilboudo, qu'est-ce que vous en pensez? On a tort d'opposer systématiquement la langue française et l'anglais, d'opposer systématiquement les langues locales, quelles qu'elles soient, et les langues des colonisateurs, des anciens colonisateurs ou de la colonisation moderne.
Non, je crois qu'on a dit déjà tout à l'heure que pour les cultures, et la langue fait partie de la culture, ça n'est pas étanche. Donc, il y a des échanges. Et la langue française, c'est vrai. Quelqu'un a dit que si on retirait tous les mots d'origine arabe et d'autres origines...
Elle n'existerait plus.
Bah, voilà, même si elle existe, vraiment, elle serait réduite. Et je crois que ce que Florent a dit tout à l'heure, nous, on vit dans une société donnée, on écrit à partir de cette société, donc on ne peut pas faire fi de tout ce qui se passe, des proverbes, et parfois même on a envie de dire quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à exprimer correctement en français, on est obligé de passer par des traductions carrément littérales pour que les gens vous comprennent. Donc vous voyez, moi je pense que les langues ne sont pas fermées. Et surtout, elles ne peuvent pas être, arrêtées à un moment, fixées à un moment, parce qu'elles évoluent. C'est bien les dictionnaires et tout ça, mais il faut accepter que ça évolue. Parce qu'une langue, c'est quoi? C'est pour décrire notre réalité. Et cette réalité ne fait qu'évoluer. Et c'est comme pour les femmes, parce que ça, il faut que je le mentionne quand même. Hein. Voilà.
Ah, je vous
pour
les femmes, aussi là-dessus.
Voilà, voilà, qu'il y ait des résistances parfois pour qu'on féminise certains métiers, certaines professions. Je trouve ça aberrant parce que...
C'est aussi une façon de laisser la langue évoluer,
voilà,
et s'adapter
évoluer,
à la réalité.
Parce que les femmes n'étaient pas à certains endroits, n'étaient pas à certains postes. Aujourd'hui, elles y sont. Il faut que la langue reflète cela.
On évoquait le dictionnaire à l'instant. C'est le mot que Monique Ilboudo a employé. Florent Cozzetti, c'est assez drôle parce qu'à la fin de Western Chukutu, il y a un glossaire, alors que votre livre est quand même écrit en français. Quoi. Donc c'est un glossaire spécial Toubab, c'est ça que vous avez mis à la fin du livre.
Ah non, pas spécialement Toubab. Toubab, c'est destiné à ceux qui peut-être ne... n'ont pas les codes pour entrer en commerce avec les mots que j'utilise, et même si parfois il y a certaines locutions qu'on retrouve au Burkina Faso,
voilà.
Surtout lorsqu'il s'agit de constructions proverbiales, par exemple dormir en crocodile, c'est un terme ivoirien.
Oui.
C'est dormir dans le soleil, quoi.
Ah oui, d'accord. Restant aux aguets.
Ça, c'est moderne.
Voilà, pour
oui,
pouvoir
voilà.
Décrocher un petit coup de dent de temps en temps ou un petit coup de queue.
Oui, oui. Et par exemple, verser sa figure par terre.
Oui, ça, c'est vraiment le outil oui. ivoirien qui a un peu quand même été infusé dans toute la sous-région aujourd'hui.
Oui, parce que justement, il y a une communauté.
Suis, ça veut dire quoi?
Vous mettre la honte, quoi.
Oui, vous mettre la honte, humilier quelqu'un.
Voilà.
On dirait des nouvelles et Tomali à Bamako.
New Africa avec le rappeur malien Mkoulel dans VMDN sur RFI. Mkoulel, de son vrai nom Issiaka Ba, et qui n'est autre que le petit-neveu du grand romancier et ethnologue malien Amadou Ampateba, qu'on évoquait brièvement tout à l'heure. Avec nous aujourd'hui, je le rappelle, l'anthropologue français Jean-Louis Ancel et les écrivains béninois Florent Kouzoti et burkinabé Monique Ilboudo, qui a été également, je le rappelle, secrétaire d'État, diplomate. Et justement, c'est à la fois à la femme de lettres, à la diplomate et à la femme politique, à la militante aussi d'ailleurs, hein, que je pose la question suivante, Monique Ilboudo. Au regard de cette triple expérience-là, la migration, l'exil, c'est une chance ou un souci pour une romancière africaine comme vous ?
Pour la romancière ou pour la citoyenne ? Bon, je pense que ça devrait être une chance. Parce que bon, vous avez le dicton qui dit que il faut que la jeunesse donc voyage pour acquérir de l'expérience et puis servir peut-être en retour son pays. Et je crois que nous tous, Florent, moi-même et d'autres, nous avons eu la chance d'aller étudier parfois en France ou ailleurs. Et puis peut-être que ça a été une grande chance, pas seulement individuellement, personnellement, mais pour nos pays aussi. Voilà. Aujourd'hui, le problème, c'est que bon, non seulement les frontières sont plus fermé, mais c'est surtout parce qu'il y a cette migration de masse de jeunes, et c'est ça qui pose problème aussi bien d'un côté que de l'autre.
Mais vous parlez de la migration légale ou clandestine ?
Elle est clandestine parce qu'elle ne peut pas être légale. Pour moi, je ne fais la différence que comme ça. Parce que si elle pouvait être légale, elle ne serait pas. Personne n'a envie d'aller faire tout le chemin qu'ils font là. Personne. C'est parce qu'ils ne peuvent pas passer légalement qu'ils prennent les routes du désert, qu'ils essayent de traverser la Méditerranée et tout ça. Donc, pour moi, je ne distingue pas au départ. C'est ce désir de partir là. Voilà. Et qui habite, je crois, chaque humain à un moment ou à un autre de sa vie. Et puis bon, le constat est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop. Il faut aller chercher les raisons qui sont multiples. C'est vraiment une situation complexe. Moi, je ne veux pas parfois qu'on dise c'est parce que les politiques dans nos pays n'arrivent pas à trouver des jobs, en fait, des emplois pour les jeunes. On voit bien qu'il y a des jeunes qui quittent des emplois assez bien rémunérés. Moi, j'ai vu des infirmiers, j'ai vu des gens qui avaient quand même des postes où ils pouvaient nourrir leur famille, laisser tomber tout cela pour tenter d'aller en Europe.
Vous avez abordé cette tentation de l'immigration vers l'Europe dans Si loin de ma vie, hein, oui. Publié au Serpent à plumes l'an dernier, à travers ce personnage de Jean-Philippe Marie, candidat
Jean-Phi, oui.
Malheureux justement à l'immigration. Comment est-ce qu'il est né, ce personnage, Monique Ilboudo ?
Je crois qu'il est né en voyant, en visionnant donc toutes ces images des jeunes échoués sur les plages, tous ces récits à la radio, RFI notamment, mais d'autres. Voilà, 50 Sud-Africains ont été retrouvés morts dans le désert libyen, etc. C'est ça.
C'est ça. Et l'idée de parler à travers ce livre, à travers ce voyage, à travers cet exil d'homosexualité, elle vous est venue en cours d'écriture?
Oui, c'est parce que ils sont prêts. Et même on a interviewé encore certains jeunes récemment, je crois au Maroc, et qui ont dit ils ont échoué, mais ils sont toujours prêts à repartir. Ils sont prêts, ils savent, ils sont conscients qu'ils risquent leur vie. Ils peuvent mourir, mais ils sont prêts. Et moi, je sais comment, avec mes étudiants à Ouaga, comment l'homosexualité est perçue. Donc, je me suis demandé, est-ce qu'un jeune est prêt aussi à accepter l'homosexualité pour aller en Europe? Donc c'était ça la question au départ.
Et votre propre expérience à vous personnelle, cette fois de l'exil, elle a été féconde pour votre écriture, pour votre aspiration, pour ce que vous aviez envie de raconter, de partager avec vos lecteurs?
Moi, j'ai eu la chance parce que toutes mes migrations ont été légales et même protégées.
Voilà,
hein, voilà, d'une façon, surtout la dernière dans les pays nordiques, ça a été très protégé. La diplomatie, c'est quand même un monde très protégé. Donc, je ne peux pas me comparer à ces jeunes-là, que je trouve très courageux, parce que moi, je ne sais pas si j'aurais fait ça. Pour aller étudier, j'ai eu une bourse, je suis partie en France, etc. Donc, c'est vraiment, je suis pas vraiment dans le même contexte. Mais ça ne m'empêche pas. Je crois que c'est l'empathie de souffrir pour ces jeunes-là. Voilà, ces jeunes qui sont parfois un peu comme assignés à résidence, qui ne peuvent pas bouger, ça me touche. Moi, je peux voyager encore aujourd'hui et tout. Mais c'est vrai que si j'avais 20 ans aujourd'hui, que je n'avais pas eu la chance d'aller faire des études et que je veux quand même voyager et qu'on m'empêche de voyager, je me sentirais très mal.
Et vous, Florent Cozzotti, vous avez quitté le Bénin pour la Côte d'Ivoire. Ensuite, vous êtes revenu au Bénin. Pourquoi partir et ensuite, pourquoi revenir ?
À l'époque, c'était dans les années, au début des années 90, il n'y avait pas de moyen d'être recruté dans la fonction publique parce que le tout état avait été en vogue pendant très longtemps où on recrutait de manière systématique tout diplômé de l'université. Et donc, j'avais un ami qui était en Côte d'Ivoire, qui était prof et qui m'a demandé de venir parce qu'il m'avait trouvé un poste là-bas. Et puis, quand je suis allé, c'était pas ça ce à quoi je m'attendais. Et puis, je suis retourné tout de suite parce que je me disais qu'il y avait une nouvelle éclaircie dans le pays, dans le paysage politique du Bénin, avec la conférence nationale qui allait s'organiser, et que peut-être que j'allais trouver ma voie.
Ça a l'air très simple, hein, la façon dont vous le racontez, Florent Cozzotti.
Oui, mais enfin, je suis un romancier.
Oui, voilà, c'est ça, on a vraiment l'impression que vous êtes parti comme ça, un beau jour, très naturellement, dans un sens et ensuite dans l'autre, et qu'après tout, ce n'est qu'une petite parenthèse.
Je me rappelle, lors de la traversée, j'étais arrivé à la frontière du Ghana et il y avait un douanier qui fouillait mes affaires et qui était tombé sur des écrits. J'écrivais dans les cahiers d'écoliers et il m'a dit mais si c'est moi qui avais écrit les tests, il ne comprenait rien parce que c'était en français. Et j'ai dit oui. Il a dit ah bon, vous êtes écrivain? Je dis bon, j'essaie d'écrire. Et il m'a demandé de lui réciter un poème. Sans quoi je ne pourrais pas traverser la frontière.
Ah d'accord, et ça a marché alors, visiblement.
Oui, je lui ai raconté...
Qu'est-ce que vous lui avez récité ?
Je lui ai récité une tempête dans un crâne. C'était un extrait de Victor Hugo, Les Misérables, au moment où le personnage Jean Valjean, il a volé le cierge... Et il voulait s'en aller. Et puis tout de suite, il a eu cette réflexion. Et il y a tout un pan de réflexion qu'il a eu. Et ça l'a traversé, ça l'a complètement bouleversé. Et c'est ça que je lui ai récité. C'était des extraits. Et il a dit, ah, it's very good, it's very good. Alors, il m'a laissé passer.
Alors, je ne sais pas, Jean-Louis Ancel, si à chaque fois que les écrivains voyagent passer une frontière, ils ont besoin comme ça de réciter des grands textes de la littérature. Mais c'est vrai qu'ils voyagent beaucoup quand même, les écrivains africains. Il y a toute une littérature de l'exil qui s'est construite un peu dans la foulée, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, un peu dans la foulée justement de la littérature très politique des années de l'indépendance. Ensuite, à partir de la fin des années 80, début des années 90, c'est la littérature de l'exil qui a pris la place de l'autre.
Oui, 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 il y a une littérature de l'exil, pas seulement d'ailleurs africaine, hein, même El Aswani, par exemple, écrivain égyptien, écrit une...
L'Afrique, l'Égypte, attention.
Oui, oui, bon. Non, je veux dire, pas
l'Afrique subsaharienne, voilà. Voilà,
c'est ça. C'est vrai qu'il y a toute une littérature de l'exil, de la souffrance dans l'exil, un peu parfois avec un peu de pathos d'ailleurs. Hein. Mais je voudrais rebondir sur ce que disait Monique, parce que ça m'intéresse, parce que j'ai fait des enquêtes sur l'homosexualité ici au Mali, et effectivement, il y a un certain nombre d'homosexuels ici qui sont désireux de enfin, au Mali, je dirais que 90% des Maliens ont envie de quitter le Mali pour partir en Europe, aux États-Unis, etc. Enfin, c'est la situation actuelle, hein. Je ne dramatise pas, mais c'est vrai. Mais peut-être particulièrement les homosexuels, effectivement, parce que, en fait, les homosexuels ici sont relativement bien acceptés dès lors qu'ils ne manifestent pas leur homosexualité et surtout leur féminité en public. Hein, si par exemple un jeune gay sort dans la rue et avec les lèvres peintes au rouge à lèvres, avec des chaussures à talons, etc., là il se fait lyncher, déshabiller. En fait, on lui fait enlever ses vêtements pour montrer qu'il a un soutien-gorge, on lui fait baisser sa culotte pour montrer qu'il n'est pas ce qu'il prétend être, qu'il n'est pas une femme, contrairement à ce qu'il prétend être, etc. Donc c'est quand même une situation assez dure, qui est aussi instrumentalisée par certains leaders religieux musulmans. Enfin, c'est une question
brûlante. Encore très récemment, ça fait partie effectivement des grands débats entre le Premier ministre Souleymane Doumbouya Maïga
et Mahmoud Diko.
Et Mahmoud Diko, des leaders religieux.
Donc c'est une question brûlante actuellement au Mali. Et donc effectivement, il y a un certain nombre... migration, c'est aussi ça, enfin la volonté pour les gens qui ne peuvent pas exprimer, qui ne peuvent pas faire leur coming out, quoi. Donc, c'est ça. Mais ce que je voudrais dire aussi à propos des migrations, c'est que, à focaliser trop sur les migrations africaines vers l'Europe ou vers le reste du monde, on passe sous silence la migration des Européens et des Occidentaux en Afrique. On parle d'expatriés. Bah, pourquoi est-ce qu'on parle pas de migrants à propos des Européens qui viennent en Afrique? Et on sait qu'il y a une flopée de jeunes maintenant en Europe, aux États-Unis, etc., qui ne trouvent pas de travail, d'ailleurs, en Europe, aux États-Unis, et qui vont en Afrique, qui vont en Amérique latine, qui vont en Asie, etc., pour essayer de s'en sortir, de créer des entreprises, de trouver des... Et ça, moi, je pense que c'est là-dessus aussi qu'il faut insister.
C'est Alors ça, c'est intéressant. Je renvoie la question à deux écrivains, Monique Ilbodo. Est-ce qu'un expatrié français qui vient en Afrique, ce serait un bon personnage de roman?
Oui, sûrement. Je voulais juste dire que dans le si loin de ma vie, je parle de cette différence d'appellation. Rien que dans la dénomination, les Africains sont des migrants, etc. Et puis les Européens, quand ils sont là, le seul mot c'est expat. Voilà. Mais j'ai rappelé qu'ils ont été migrants. Ils sont allés par bateau entier en Amérique, notamment, et ailleurs. C'était des migrants. Voilà. Est-ce que donc je fais parler Jean-Philippe et ils se demandent mais pourquoi aujourd'hui c'est nous les migrants et eux ils sont des expats, pourquoi cette différence dans la dénomination? Voilà. Donc mais c'est sûr que c'est des questions encore, la question de l'homosexualité, si on revient là-dessus, c'est pas seulement au Mali, chez moi ailleurs, je pense aussi au Bénin et ailleurs, c'est encore des questions très taboues. Et vous avez évoqué j'ai vu effectivement une vidéo où on a déshabillé un jeune homme, on l'a vraiment maltraité parce que il était habillé. C'est vrai que quand on le voit au début de la vidéo, on pense que c'est une jeune fille. Et c'est vrai que ça ne pardonne pas encore dans nos contrées.
Et est-ce que le rôle de l'écrivain Florent Coazotti, c'est pas aussi de s'attaquer à ces questions-là et de briser les tabous?
Le rôle de l'écrivain, c'est en fait d'éclairer les consciences. C'est peut-être fort, c'est peut-être démagogique,
mais c'est une ambition, en tout cas.
Oui, c'est une ambition, c'est-à-dire d'expliquer aux gens ce qu'est, par exemple, l'homosexualité, de ne pas prétendre que, parce que ce n'est pas une pratique intégrée dans nos traditions, on doit absolument les évacuer. Encore que, moi, dans une communauté que je connais très bien, qui est ma communauté à moi, les Guinmina, il y a, dans les temples vaudous, eh bien, certains qu'on appelle les mamissi, c'est-à-dire ceux qui divinisent les sirènes, qui ont des pratiques homosexuelles.
Donc ce sont des pratiques qui ne sont pas exclues de la tradition.
Ce sont des pratiques anciennes. Quand il y a un officier français qui parcourt le plateau Dogon en 1907, il observe que dans les maisons de jeunes, Dogon, les jeunes ont des pratiques homosexuelles. Donc c'est pas que ça a toujours existé en Afrique, ça, mais ailleurs d'ailleurs. Hein. Mais simplement, il y a une répression de ces pratiques. Même plus récemment, même il y a 40 ou 50 ans, ici à Bamako, on parle de gens qui étaient efféminés, qui s'habillaient avec des vêtements de femmes, qui jouaient les intermédiaires pour procurer des femmes aux gens du haut du sommet de la société, etc. Et c'était parfaitement toléré. Et maintenant, ça ne l'est plus, alors que les pratiques continuent, bien sûr.
VMDN est au Mali, à Bamako.
Florent Coazotti, je le disais tout à l'heure en vous présentant, vous avez publié des romans, mais aussi des nouvelles, du théâtre, de la bande dessinée, vous avez tâté des séries télévisées, des films vidéo. Est-ce que c'est le signe que pour vous, la littérature doit se décloisonner? Je ne parle pas seulement de géographie, hein, d'ailleurs, mais aussi de pluralité des genres, comme si la littérature ne se suffisait plus à elle-même et qu'elle devait explorer de nouveaux terrains, de nouveaux moyens d'entrer en contact avec le public.
Moi, j'ai toujours pensé que la littérature, même si elle est limitée par les lettres, est un espace qui est ouvert à toutes sortes d'expérimentations, que ce soit, disons, la vidéo, mais on ne peut pas voir la vidéo à travers la littérature, mais que tous les gens peuvent se retrouver à l'intérieur de cet espace-là. C'est d'ailleurs pour ça que le roman est considéré comme le genre le plus noble, le plus grand. Je me dis très souvent que pour essayer d'approcher tous les univers, il faut faire en sorte que tout ceux qui aiment justement lire des histoires, ou alors qui aiment les histoires tout simplement, puissent lire le roman, puissent aller au-delà de ce qu'ils ont l'habitude d'écouter et de rentrer vraiment dans les tests. Peut-être que à l'intérieur de ces tests-là, eh bien, il y a de nouvelles expériences qui sont menées pour rendre riche justement l'espace romanesque. Moi, je suis un enfant des images et j'aime beaucoup les images. Par exemple, dans Western Chukutu, j'ai fait en sorte que on retrouve un peu le conte, qu'on retrouve le surnaturel, qu'on retrouve le genre policier, qu'on retrouve même le roman noir. Tout cela fait partie justement du corpus du romanesque et on peut jouer là-dedans et faire en sorte que les personnages récurrents du western se retrouvent justement à la fin pour le dernier show. Dans un western, c'est le corps à corps et celui qui va flinguer l'autre aura le dessus.
Voilà, à propos de romans noirs, justement, Jean-Louis Ancel, en ce moment, il y a un genre littéraire qui a beaucoup de succès sur le continent africain, c'est le polar. Je ne sais pas si vous avez une explication.
Bah écoutez, ça correspond peut-être à ce que vivent les Africains et ce qui se passe dans les sociétés urbaines notamment, hein, où les rapports sont extrêmement durs. Enfin, il suffit de voir ce qui se passe à Bamako, enfin, avec l'insécurité, avec les braquages, avec les meurtres d'imams, un imam qui a été assassiné récemment, Abdelaziz Yatabari, etc. Donc, moi je pense que le polar, mais pas seulement d'ailleurs à propos de l'Afrique, même aussi peut-être l'Europe, les États-Unis, on vit dans des sociétés urbaines quand même qui sont extrêmement dures, où il y a des rapports violents qui sont de plus en plus prégnants. Et je pense que le polar, enfin moi je suis un fan de polar, pas seulement de polar américain d'ailleurs, mais de polar de tous les pays, parce que je trouve que c'est intéressant justement la façon dont le polar, la forme polar, est déclinée selon les pays. Et, par exemple en Afrique, il y a des auteurs africains, sénégalais, etc., qui donnent une coloration... C'est pas parce que c'est des noirs ou des africains,
oui, bien sûr,
mais une coloration particulière au polar qui peut-être est d'inspiration, enfin d'origine américaine. Mais par exemple, il y a des polars sud-africains qui sont excellents. Des polars, bon, parlons pas des polars scandinaves, bon, c'est très connu, mais même polonais, etc. Chaque pays maintenant décline, pas tellement en France d'ailleurs, parce que les Français arrivent pas tellement. Il n'y a pas tellement d'auteurs nouveaux en France de polar. Il y a eu Jean-Patrick Manchette, etc. Mais je trouve que le genre se renouvelle pas tellement en France, mais dans des tas de pays, sur des tas de continents, la forme polar, ça se vend très bien, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde lit ça, etc.
Voilà, bah d'ailleurs, on va essayer de monter une émission de VMDN autour du polar en Afrique. Vous voulez ajouter quelque chose, Florent?
Oui, j'ai suivi une adaptation de roman policier sénégalais, Ramata, qu'on a fait un film très beau. Et j'ai suivi la projection au Nigeria. Et ce qui m'a... touché, c'est la réaction des femmes, parce qu'il y a un personnage féminin qui est malheureux, elle est malheureuse de cette femme-là, c'est la femme d'un ministre, et qui a décidé de sortir et de se coquiner avec un voyou, et le bonhomme, il revient à la maison et constate que sa femme le trompe, et il pose la question à la femme: mais qu'est-ce qui te manque, toi? Tu es couverte de bijoux du matin au soir, etc. Et la femme répond: au moins le monsieur-là, c'est un poète.
Oh, quelle belle conclusion pour cette émission. Merci beaucoup, Florent Coisotti. Merci à vous, Monique Ilboudot et Jean-Louis Ancel. Merci aussi à l'Institut français de nous avoir accueillis aujourd'hui et le fera encore demain pour l'enregistrement de notre troisième et dernière émission consacrée aux littératures africaines face aux crises politiques cette fois. Dans un instant, l'info sur RFI. À demain et vous m'en direz des nouvelles.